In honor of Military Appreciation Month, Verizon thought of a lot of different ways we could show our appreciation, like rolling out the red carpet, giving you your own personal marching band, or throwing a bumping shindig. At Verizon, we're doing all that in the form of special military offers. That's why, this month only, we're giving military and veteran families a $200 Verizon gift card and a phone on us, with a select trade-in and a new line on select unlimited plans. Think of it as our way of flying a squadron of jets overhead while launching fireworks. Now that's what we call a celebration, because we're proud to serve you. Visit your local Verizon store to learn more. $200 Verizon gift card requires smartphone purchase, $799.99 or more with new line on eligible plan. Gift card sent within 8 weeks after receipt of claim. Phone offer requires $799.99 purchase with new smartphone line on Unlimited Ultimate or Postpaid Unlimited Plus. Minimum plan $80 a month with autopay plus taxes and fees for 36 months. Less $800 trade-in or promo credit applied over 36 months. 0% APR. Trade-in must be from Apple, Google, or Samsung. Trade-in and additional terms apply.
Chicago, it's no mystery that Chevy is your best bet for the unpredictable spring ahead. The snow and ice may be gone, but the spring plot thickens at your local Chevy dealer, where you'll find the true MO of SUVs. If you're thinking about taking all the twists and turns in a new Chevy, you're not alone. The right vehicle makes all the difference when it comes to safety, confidence, and comfort on the road. You saw the Chevy lineup at the auto show. Now it's time to see which one you can identify. And don't worry, they can't see you behind the glass. Need the power and durability of a Silverado? The all-weather confidence of an Equinox or Blazer? The spacious comfort of a Traverse, Tahoe, or Suburban? Or the sporty city-friendly Trax? Your local Chevy dealer has exactly what you need to solve the case like a pro. So don't wait. Head to ChevyDriveChicago.com today. Browse the newest models, special offers, locate your nearest Chevy dealer, and start shopping online. Things are warming up out there, and you need a vehicle you can trust. Find yours now at ChevyDriveChicago.com. Chevy. Together, let's drive.
Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien.
Préféré.
Ici Hello. Hélène.
Et Mélanie, excuse, je t'ai coupé.
Et
Navy. Bon, là, la gang Navy est là, mon bébé de 6 mois. Il a genre faké une gastro ce matin. Là, il a de l'air top shape. Fait que ouais. Je me suis dit, ah, je vais pas l'amener à la garderie parce qu'il filait vraiment pas, il était tout chaud. Puis là, il vit sa best life, puis il sourit, puis il est chill.
Ouais.
Il fait des bruits, mais bon. Fait que voilà, bruit de bébé en bruit de fond.
Voilà, ça faisait longtemps.
Ça faisait longtemps. On était dû pour un petit épisode 4, tu sais.
Oui, oui.
J'ai un potin à te raconter, Hélène. Vas-y. Sur l'épisode de Monica la mitraille que j'ai fait. Il y a Marie-Soleil qui nous a écrit, elle dit « Salut, j'ai une histoire à vous raconter. J'étais en train d'écouter votre épisode de Monica la mitraille sur les vols de banque et ça m'a rappelé une histoire. Ça m'a rappelé une histoire que mon grand-père m'a racontée. Quand il était jeune, son oncle avait un bloc qu'il louait à Montréal dans l'immeuble au rez-de-chaussée. C'était un magasin en haut du magasin, c'était des chambres à louer. Pendant quelques mois, l'oncle de mon grand-père louait le magasin à des hommes. Il utilisait un magasin de meubles. Il y avait des meubles dans les vitrines, mais bizarrement, le magasin n'était jamais ouvert. Après plusieurs mois, ils l'ont arrêté et ils ont arrêté de le louer. Donc, l'oncle de mon grand-père est rentré dans le « magasin », entre guillemets, pour le préparer à le relouer. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que les anciens locataires avaient creusé un tunnel dans la terre qui se rendait jusqu'à la banque d'à côté. Tout ce temps, il creusait à pelle et étalait la terre dans la cour de l'immeuble. L'oncle de mon grand-père ne s'est jamais rendu compte de ça parce qu'il sortait jamais en arrière. Ils n'ont jamais retrouvé les voleurs. Voilà, c'était ma petite histoire. J'aime beaucoup vous écouter. Je vous trouve super.
C'est malade. C'est comme dans les films.
C'est drôle. Moi, je pensais que c'était un front. D'habitude, c'est les magasins jamais ouverts. C'est un front. Mais là...
ben, c'était un front, mais pour...
de vol de banque.
C'est ça. De tunnel.
C'est trop drôle. Merci, Marie-Soleil, d'avoir partagé ça avec nous. Qu'est-ce que tu nous racontes, Hélène, aujourd'hui?
Écoute, c'est quelque chose comme histoire. Je l'ai intitulé « Le pasteur ».
J'aime tellement tout le temps tes titres. T'es vraiment bonne pour donner des titres.
Mais celle-là, elle était facile. Genre, dans les journaux, des fois, ils l'appelaient « Le pasteur ».
OK, t'as triché. Ouais, je retire ce que j'ai dit.
Je suis vraiment poche. Donc, mes sources, un tueur si proche.
Classique.
Radio-Canada et plusieurs articles de la presse sur la BANQ.
OK.
Alors, je t'emmène. Le 16 janvier 1985, à Huntingdon, un petit village de 2500 habitants en Montérégie. C'est comme dans le coin en bas à gauche du Québec. Tu sais, genre vraiment proche des États-Unis puis de l'Ontario.
OK. Je vois bizarrement exactement.
À vous, un coin en bas à gauche.
À gauche, oui.
Alors. En début d'après-midi, Suzanne Quinn, 25 ans, se rend chez sa petite sœur Linda, qui a 23 ans. Elle voulait lui parler de leur ami en commun, Raymond Steele, qui avait un comportement vraiment étrange récemment. Quand elle arrive chez sa sœur, elle cogne à la porte, mais personne ne répond. Suzanne décide de s'asseoir dans les escaliers puis de l'attendre. On se rappelle qu'il n'y avait pas de cellulaire à l'époque.
Non. 85, t'as
85, oui. Elle se dit qu'elle ne doit pas être partie bien loin puis qu'elle va revenir bientôt. Mais ça prend quand même du temps. Puis là, vers 16h, finalement, c'est le fiancé de Linda qui arrive. Fait que là, elle demande s'il sait où est Linda. Puis il dit, ah, ben elle est partie chez Raymond Steele, justement, l'ami de qui elle voulait parler. Apparemment qu'il avait besoin d'aide pour retrouver sa femme et son enfant. Les deux rentrent dans l'appartement. Mais là, le fiancé, lui, il ne peut pas rester longtemps. Il faut qu'il reparte parce qu'il y a un rendez-vous. Fait que Suzanne reste dans l'appartement, puis elle prend le téléphone pour essayer d'appeler chez Raymond, pour essayer de rejoindre Linda. Ouais, ça sonne, personne ne répond. Elle réessaye plusieurs fois, puis finalement, à un moment donné, Raymond Steele, il répond. Elle demande qu'est-ce qui se passe, puis est-ce que sa sœur est chez lui. Il dit que non. Il dit que Linda est partie à Ottawa parce qu'elle a décidé de quitter son fiancé et de prendre du temps pour elle-même.
OK.
Suzanne, elle comprend à rien. Linda était fiancée depuis à peine 2 semaines. Elle aimait éperdument son futur mari et elle était enceinte de 2 mois. Puis en plus, elle et sa soeur, ils ont toujours été vraiment proches. Fait que pourquoi?
Il n'y a rien qui a de sens.
Non, c'est ça. Rien qui a de sens. Suzanne a dit ça à Steele. Elle a dit, ça n'a aucun sens. Alors, Steele, il dit, je vais venir te chercher puis je vais t'emmener chez nous puis je vais tout expliquer. Puis, avant de raccrocher, il lui demande quelque chose d'un peu bizarre. Il dit, « Peux-tu écrire une lettre de rupture de la part de Linda à son fiancé? » Suzanne la raccroche et elle le fait. Elle écrit comme une note, comme c'était de la part de Linda, qui dit qu'elle quitte son fiancé. Et ensuite, elle attend Steele, qui arrive avec la voiture de Linda. OK. Fait que Suzanne lui demande qu'est-ce que tu fais avec la voiture de ma sœur. Et il dit, ah, ben c'est parce que je suis allée la porter à Ottawa, puis je suis revenue avec sa voiture. OK. Bon, c'est bizarre. Suzanne, elle embarque tout de même avec Steele, puis elle attend qu'il explique qu'est-ce qui se passe, mais Steele, il dit comme rien dans la voiture. Il part, il arrête d'acheter de la nourriture en chemin et du désinfectant en spray.
Genre, il essaie même pas d'être subtil, on dirait. Si c'est lui, là.
Écoute, tu veux voir, genre, tous les drapeaux rouges sont levés dans cette histoire-là. C'est genre, okay. Quelques minutes plus tard, ils arrivent chez Steele et Thunder, le pitbull de Steele, il est attaché à l'extérieur puis il semble comme un peu nerveux, excité.
C'est sûr qu'il y a un pitbull qui s'appelle Thunder.
Thunder. Puis là, quand il rentre dedans, il y a un autre chien, c'est un berger allemand, puis lui, il est bien content qu'il rentre. Puis là, ah oui, Steele, il adorait ses deux chiens. Là. C'était vraiment ses petits bébés. Puis, ils avaient dressé vraiment bien. Puis, ils avaient dressé pour l'attaque.
Bien sûr.
Ouais. Puis, il lui obéissait au doigt et à l'œil. Puis là, Steele, il flatte son chien. Puis là, Linda remarque qu'il y a des blessures sur les mains. Puis là, elle demande comment il s'est fait ça. Puis, il dit, ah, c'est mes chiens qui m'ont mordu.
OK.
Autre chose étrange. Comme si on n'avait pas déjà assez. Il y a une odeur vraiment nauséabonde dans la maison. Suzanne lui demande c'est quoi. Steele dit que c'est l'haleine des chiens qui l'ont mordu tout à l'heure.
OK. Ça s'en vient tordu, son affaire.
Ouais. Fait que là, Steele demande à Suzanne de préparer quelque chose à manger avec les choses qu'ils ont achetées en chemin. Suzanne s'exécute. Et pendant qu'elle est en train de préparer à manger, à un moment elle sent comme quelqu'un derrière elle. Elle se retourne, puis c'est Richard Bertrand, 22 ans, qui est un ami d'enfance de Suzanne. Puis en fait, c'est Richard qui l'avait présenté à Steele, que Suzanne a rencontré Steele à travers Richard. Enfin. Il est debout derrière elle en chess. Il est comme blanc comme un drap. Il a l'air sous le choc. Suzanne, elle dit « Mon Dieu, qu'est-ce que t'as? » Puis là, il répond rien. Puis Suzanne a dit que « Hey, là, là, vous allez me dire ce qui se passe parce quelque chose que qui va je pas, comprends plus rien. »
La vibe dans la salle.
Fucked up. Puis là, Steele, il arrive. Puis il vaporise le désinfectant en spray d'en face de Richard.
Dans sa face?
Ouais. Puis Richard, il se sauve au sous-sol. Puis Steele, il dit « C'est ça qu'on fait avec des chiens enragés. »
OK.
Suzanne, elle comprend rien. Elle continue à préparer le souper.
Hein?
Là, finalement, les deux s'assoient pour manger. Puis Steele, il dit à Suzanne « En fait, j'ai été obligée de tuer ta sœur, Linda, parce qu'elle était possédée du démon. »
Genre en train de souper.
Ouais.
OK.
OK. Je te fais une petite pause ici pour te mettre en contexte puis te parler un peu de Raymond Steele.
OK.
Raymond Steele a 31 ans. Il est d'origine américaine. Il est grand, fort, intimidant et très charismatique. Suzanne fait sa connaissance à l'automne 84, donc juste quelques mois avant, parce que c'était comme janvier 85. Puis c'est Richard Bertrand, son ami, lui qui est en état de choc, là, qui lui était barman au bord de l'hôtel Le Château, puis il l'a présenté à Suzanne. Tu sais, lui, il venait juste comme d'arriver dans la région, puis il s'était installé dans la ville de Godmanchester, qui est en fait à 10 km de Huntington. Il s'est installé là avec sa femme, qui était très enceinte quand il est arrivé, puis qui a accouché un peu de temps après. Donc, Steele, à ce moment-là, c'est le père d'un bébé de quelques semaines.
Trop de bébés en très bas âge dans ton histoire, j'aime pas ça.
Ben, juste un.
Ben, l'autre était enceinte.
Ah oui, c'est vrai. Oui, Linda est enceinte. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. Ce qui distingue Steele, c'est qu'il porte un petit col romain.
C'est quoi ça?
C'est-à-dire un petit col blanc de prêtre.
Ah! Mm. Hein? Mais oui. Aucunement prêtre.
Ben oui, il est le pasteur et fondateur de l'Église universelle de la raison éclairée.
Répète ça.
L'Église universelle de la raison éclairée.
De la raison éclairée, OK. Ouais. Ça sonne pas secte
du tout. Puis, il organise plusieurs événements de charité, fait des levées de fonds pour les plus démunis, entre autres pour les enfants d'Éthiopie. Puis c'est justement lors d'une levée de fonds que Suzanne a présenté Steele à Linda. Puis Linda et Steele, ils s'entendaient très bien. Puis même que Linda, elle a commencé à travailler pour Steele comme secrétaire de son église.
Ça fait quoi, une secrétaire d'église?
Je sais pas.
OK.
Donc Steele, qui est incroyablement charmant, et c'était aussi un très bon musicien. Il chantait, il jouait de la guitare. Puis c'est là-dessus que Richard et Steele ont connecté, parce que Richard aussi était musicien, il jouait de la musique. Fait que Steele l'a invité à joindre son groupe, groupe d'église, d'église.
Un band religieux. Voilà. Il y en a beaucoup de ça.
Et puis il a proposé à Richard d'être l'administrateur de son église.
OK. Ouais. Mais c'est genre, tu peux te partir une église de même?
Apparemment.
Genre, OK.
Ouais.
Je savais pas.
Non plus.
Ça, on s'entend que c'est pas une église. C'est un dude.
Oui.
Ça blonde.
Oui, c'est ça. T'as bien résumé.
On juge pas. On juge vraiment pas les gens qui vont à l'église. C'est vraiment non, mais pas ça. C'est point. Pas, mais lui.
C'est pas ça.
C'est pas ça. Non.
C'est plus ça, un début de secte. Dans les derniers temps. Puisque Linda était occupée par sa grossesse puis la préparation de ses fiançailles, Suzanne, elle avait passé beaucoup de temps avec Steele. Puis lui, elle se confiait beaucoup à lui. Puis sûrement que son petit col de prêtre a aidé à faire confiance et vouloir se confier. Mm-hmm. Puis en échange, Steele, il se confiait aussi beaucoup sur ses problèmes matrimoniaux.
OK.
Parce que sa femme venait de le quitter.
Oh!
Avec le petit bébé. Elle était partie avec. C'est pour ça que Linda est allée chercher aider. Le fiancé de Linda, il a dit elle avait besoin, Steele avait besoin d'aide pour que Linda l'aide à retrouver sa femme et son bébé.
OK.
Qui l'ont quitté.
Elle a quitté sans lui dire où elle allait.
Ouais.
Fait que là, lui, il s'est dit, OK.
Linda vient m'aider à la trouver.
Mm-hmm.
Alors.
A.K.A. m'a tué.
Ouais. De retour à l'histoire.
Oui.
Donc, Steele vient de dire, j'ai été obligée de tuer ta sœur, Linda, parce qu'elle était possédée du démon. Fait que Suzanne, elle veut pas y croire. Elle se dit que c'est comme une mauvaise blague. Puis en plus, Linda et Steele se sont toujours bien entendus. Mm-hmm. Linda, elle avait invité à ses fiançailles, puis elle lui avait même demandé de bénir sa bague. Puis pendant qu'il parlait, Richard, il était remonté du sous-sol, puis il écoutait la conversation. Puis là, à un moment donné, Steele change d'histoire. Et il dit que c'est Richard qui a tué Linda. Fait que là, il se lève, puis il ordonne à Richard de se mettre à genoux. Richard obéit, puis Steele, il se met à le frapper avec un pic à bois. Puis ensuite, il dit à Suzanne, viens le frapper aussi, viens punir le meurtrier de ta sœur. Suzanne est comme, non.
Hein?
Puis ensuite, Steele, il dit qu'il va tuer Richard lui-même.
Hein?
Suzanne,
ça va être dégringolé rapidement.
Suzanne est comme, non, tu vas pas tuer personne devant moi, là. Suzanne, elle a vraiment peur.
Avec raison.
Avec raison. Mais elle a comme la présence d'esprit de se dire, faut que je garde mon calme, puis qu'il faut pas que je lui montre que j'ai peur.
Mm-hmm. Wow.
Fait que là, Steele, lui, il continue à tabasser Richard dans une autre pièce, puis là, soudainement, Suzanne, elle entend un cri de mort. Puis elle voit Richard arriver en courant. Steele vient lui lancer de l'eau bouillante sur le torse.
Oh.
Puis il est gravement brûlé. Ensuite, Steele ordonne à Richard de s'asseoir puis d'écrire une confession dans laquelle il dit qu'il est le seul responsable de la mort de Linda Quinn. Fait que Richard, il s'installe pour écrire, mais sa main, elle tremble trop.
Mm-hmm.
Fait qu'il arrive pas à écrire. Fait que là, Steele est frustré, il frappe Richard. Puis finalement, il décide d'aller reconduire Richard chez lui. Puis il dit, appelle une ambulance pour tes blessures, puis invente une histoire de comment tu t'es fait ça qui ne m'implique pas. Fait que là.
Mais comment ça, il domine de même? Ça n'a pas de sens.
C'est vraiment comme une mini-secte. Là, ouais. Genre, tout le monde autour de lui sont juste totalement comme dominés par lui.
Obéissant. Ouais. Wow.
Fait qu'il part reconduire Richard, Suzanne, elle les accompagne. Fait que là, une fois de retour à la maison, là, Suzanne, elle essaie de trouver des indices pour savoir ce qui s'est passé avec sa sœur. Fait qu'elle fouille un peu partout pendant que Steele est distrait. Puis là, amenée sur le plancher, elle aperçoit la bague de fiançailles de Linda.
Oh!
Puis là, à ce moment-là, elle espère de tout son cœur que Richard dénonce Steele à la police pendant qu'il est à l'hôpital. Mais là, les heures passent, puis la police n'arrive pas. Fait que Suzanne, elle comprend que Richard il a juste mm-hmm. obéi aux ordres de Steele, ouais. puis qu'il dira rien. Suzanne, elle pense ensuite à aller voir dans la cave, au sol, mais une fois dans les escaliers, elle est comme figée par la peur, puis elle décide de pas y aller. Elle passe la nuit, là.
Ben, c'est une bonne affaire, parce que tu veux pas t'enfermer dans une cave d'un tueur.
Non, effectivement.
Mais en même temps, tu dis, ma sœur, es-tu en vie? Es-tu
là? Ouais, c'est ça.
Mais en même temps, ça pue.
Mmh.
En tout cas, mmh. Adore, là.
Ouais, adore, là.
Puis elle voulait pas. Il y a pas de téléphone. Mais tu sais. Elle a pas appelé la police.
Ouais, mais tu sais, elle aussi est comme sous le contrôle de Steele. Ah, puis okay. Elle a vraiment peur. Fait qu'elle est un peu. Mmh. Mais oui, moi aussi, je suis genre, pourquoi elle appelle pas la police? Ouais. Pourquoi elle a pas peigné le téléphone?
C'est facile à dire dans notre cas.
C'est nous, ça. Là, c'est facile à dire quand tu regardes la situation mmh. de loin, mais.
OK. Fait qu'elle adore, là.
Adore, là. Puis, tu sais, il pose des questions pendant la nuit. Elle est comme, qu'est-ce qui s'est passé avec Linda? Puis, alors, à un moment donné, Steele, là, il dit, oh, Linda est pas morte. Elle est vraiment partie pour Ottawa.
Ben ouais.
Donc, à ce moment-là, Suzanne, elle éclate en sanglots. Puis, elle veut juste tellement y croire que c'est ça pour vrai. Mais là, le lendemain matin.
C'est une très bonne blague. J'ai tué ta soeur. Non, c'est lui qui l'a tué. Non, elle est en vie.
Donc, finalement, le lendemain. Et pendant le petit déjeuner, c'est quand ils sont assis à table, c'est ces moments confession.
C'est un bon repas, je te dis tout.
Ouais. Fait que là, il revient sur sa version de l'histoire dans laquelle il a tué Linda.
Lui-même.
Ouais. Puis là, Suzanne, à ce moment-là, elle est juste tellement épuisée, découragée. Puis elle dit à ce moment-là, je pourrais bien mourir moi aussi. Mm. Fait que, oh. Elle est à bout. Là, à midi et demi, Steele, il dit qu'il va faire une commission puis qu'il revient. Avant de partir, il dit à Suzanne, « Si tu veux rester vivante, ferme-la. » Suzanne, elle a tellement peur qu'elle reste figée, là, assise à table pendant genre 30 minutes. Là. Elle bouge pas du tout. Puis là, à maner, après 30 minutes, elle bouge son petit doigt. Puis là, elle commence à bouger. Puis là, elle se lève. Puis là, elle regarde dehors. Puis là, elle voit Là, elle voit que les chiens ont comme l'air calmes. Fait qu'elle se dit, OK, Steele, il doit vraiment être parti. Fait qu'elle met même pas son manteau. Elle sort, tu sais, c'est en janvier, il fait frais. Elle sort de la maison, puis elle court chez les voisins. Puis là, finalement, elle appelle la police.
Bon move.
Ouais. Sûrement qu'elle voulait pas appeler la police dans la maison aussi pour pas qu'ils l'entendent. Ouais. Comme qu'il arrive derrière elle.
Mais tu, ça peut être tellement de choses. Ouais. Est-ce qu'il est parti pour vrai? Est-ce qu'il est caché? Y a-t-il une caméra, je sais pas, en 85, mais genre. Il y a tellement de choses.
C'est ça.
Est-ce qu'il m'attend derrière la porte, puis si je l'ouvre, tu sais?
Now at Verizon, we're locking in low prices for 3 years, guaranteed, on my plan. And you can get a single line for just $45 a month when you switch and bring your phone. That's our best price ever on unlimited welcome, with autopay plus taxes and fees, guaranteed for 3 years. Because at Verizon, we got you. Visit your local Chicago Verizon store today. $20 monthly promo credits apply over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Price guarantee applies to then current base monthly rate. Additional terms and conditions apply.
Chicago, it's no mystery that Chevy is your best bet for the unpredictable spring ahead. The snow and ice may be gone, but the spring plot thickens at your local Chevy dealer, where you'll find the true MO of SUVs. If you're thinking about taking all the twists and turns in a new Chevy, you're not alone. The right vehicle makes all the difference when it comes to safety, confidence, and comfort on the road. You saw the Chevy lineup at the auto show. Now it's time to see which one you can identify. And don't worry, they can't see you behind the glass. Need the power and durability of a Silverado, the all-weather confidence of an Equinox or Blazer, the spacious comfort of a Traverse, Tahoe, or Suburban, or the sporty city-friendly Trax? Your local Chevy dealer has exactly what you need to solve the case like a pro. So don't wait. Head to ChevyDriveChicago.com today. Browse the newest models, special offers, locate your nearest Chevy dealer, and start shopping online. Things are warming up out there, and you need a vehicle you can trust. Find yours now at ChevyDriveChicago.com. Chevy. Together, let's drive.
Quand les policiers arrivent, ils prennent la déposition de Suzanne, puis ensuite, ils vont tout de suite voir Richard pour qu'il corrobore les dires de Suzanne. Et effectivement, il raconte la même chose qu'elle. Donc, ensuite, les policiers font venir l'escouade de Montréal. Puis, dans la nuit du 17 au 18 janvier, ils forment un périmètre de sécurité autour de la maison de Steele, puis ils défoncent la porte et ils arrêtent Raymond Steele. Ils prennent pas de chance, puis ils abattent les chiens. Qui sont vraiment très agressifs. Les policiers fouillent la maison et le terrain. Et là, derrière la maison, ils tombent sur une grosse malle, tu sais, comme une grosse malle de voyage.
Oh.
Puis quand ils l'ouvrent, ils retrouvent le corps congelé de Linda Quinn.
Congelé?
Ben, il était en janvier.
Ah, ben oui, dehors. C'est vrai, on était en janvier.
Ouais. Les policiers retrouvent aussi le couteau qui est l'arme du crime et du linge de cire avec du sang de Linda dessus. Donc, Raymond Steele est accusé du meurtre au premier degré de Linda Quinn. Puis là, on apprend plusieurs choses sur Raymond Steele qui ne t'étonneront peut-être pas. Ben, il s'est inventé pasteur, apparemment, parce que rien prouve qu'il a fait, je sais pas c'est quoi, la formation ou
le processus.
Le processus pour être pasteur, mais clairement...
Il l'a pas fait.
Non. L'Église universelle de la raison éclairée, ben, ça existe pas vraiment, là, dans le sens, c'est juste lui, puis...
No shit!
Lui, dans sa maison. Puis il a probablement fait ça pour ne pas payer de taxes.
Ah!
Ben, entre autres. Puis dans les médias de l'époque, il y en a beaucoup qui parlent de secte, mais tu sais, c'est comme
secte de trois personnes.
Encore une secte, mais je pense que, tu sais, s'il avait pas viré fou aussi vite, il aurait vraiment réussi à créer une secte, t'sais. Mais là, il était là genre 4 mois, puis il a tué quelqu'un, tu sais. Fait que...
Mais ça sonnait comme un bon gourou, là.
Ouais, vraiment.
Il s'autoproclame pasteur.
Ouais.
Il est super charismatique.
Ouais.
Tout le monde y obéit.
Ouais. Ah oh, oui, puis il dit que c'est Dieu qui l'avait choisi, puis tout, là.
Ah ben oui, c'est ça. Oui. Voilà. Tout pour un très bon gourou.
Voilà. Oui, puis l'argent qu'il ramassait pour les enfants d'Éthiopie, ben... Pas mal sûr que ça s'est jamais rendu en Éthiopie. Et, autre chose qui ne t'étonnera sûrement pas, il battait sa femme. Et c'est pour ça qu'elle s'est sauvée avec le bébé. Donc, on a un petit peu plus d'informations sur cette femme-là. T'sais, elle était vraiment jeune, elle avait genre 22 ans. Puis, ce qu'on sait, c'est que même quand elle était enceinte, il la battait. En fait, le seul épisode de violence conjugale qu'on connaît, c'est qu'à un moment donné, il l'aurait battu, il avait un coup de balai dans le ventre.
Enceinte?
Enceinte.
Le bébé a survécu.
Oui. Ben, t'es très, très enceinte, je pense, rendu là. T'sais, quand ils sont arrivés à Good Manchester, elle était à vraiment à la fin de sa grossesse, là.
Mais quand même, tu peux tuer le bébé à coup de balai.
Mais oui, tu peux.
Sauvage.
Puis après cet épisode-là, elle s'est comme sauvée de la maison, puis elle est arrivée chez les voisins. La voisine, elle l'a vu arriver, puis elle lui a raconté qu'est-ce qui s'est passé, puis la voisine a dit « Tu dois jamais retourner là. » Mais on sait. C'est rare que les victimes de violences conjugales réussissent à partir de la première fois, la première tentative. Je pense que la moyenne, c'est genre 8 tentatives avant de quitter vraiment une relation violente. Donc, elle retourne auprès de Steele, elle finit par donner naissance à l'enfant, mais la violence n'arrête pas, même quand l'enfant est là. Donc, elle essaie encore de partir, puis finalement, c'est le 12 janvier 85, donc 4 jours avant le meurtre de Linda, qu'elle se présente dans une maison d'hébergement pour femmes avec son bébé de 3 semaines.
Donc, ça aurait pu être elle?
Oui.
Facilement?
Oui. En fait, si elle n'était pas partie, moi, je pense qu'elle serait morte.
100%. Ouais. Bébé aussi.
Oui, bonne chance que oui. Ouais. Mais c'est ça. C'est vraiment comme le départ de sa femme qui a fait disjoncter Steele. T'sais, ça l'a vraiment rendu furieux. Le 15 janvier, Suzanne, elle l'avait vu. Il était allé se rencontrer dans un café. Puis il était vraiment comme méchant, agressif. Il dit qu'il ne voulait plus de son amitié parce qu'il la trouvait vraiment envahissante. Ah, mais par contre, il accepterait qu'elle soit sa secrétaire si elle l'appelle monsieur.
Des belles conditions de travail. Sur ton contrat de travail, c'est ça que tu signes.
C'est ça.
Je dois appeler mon patron monsieur.
Et que là, Suzanne était comme, OK, je comprends que ce soit fâché parce que sa femme est partie, mais bon, c'est peut-être le temps que je coupe les ponts. Là. C'est là qu'elle a commencé à se dire que ça, c'est too much. Donc, c'est ça, cette journée-là, il cherche sa femme partout. Puis c'est là qu'il appelle Linda pour dire, oui, il l'a appelé. Donc, le 15 janvier, il appelle Linda pour lui demander de lui amener du lait et des cigarettes le lendemain, puis de l'aider à chercher sa femme. Fait que Linda, elle dit, c'est pas de problème, je vais venir te voir demain.
C'est comme ça qu'il l'a attiré.
Ouais. Mais il voulait vraiment qu'elle l'aide. Tu sais, je pense que c'était pas prévu. Il juste...
Tu penses?
Ben, en tout cas, je te raconte la suite, là.
Ouais, vas-y.
Parce que là, on a beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé, sur le meurtre. Parce qu'on a la confession de Richard.
Ah oh ouais?
Qui était okay. Là. C'est ça. Puis, tu sais, l'enquêteur qui l'a interrogé dit que l'homme qui était devant lui était juste complètement traumatisé. Mais il a tout raconté ce qu'il a vu. Je vous préviens.
Ouais, c'est ça, j'allais dire. T'as-tu un petit warning?
Ouais, la prochaine partie est quand même difficile à entendre. Parce que Linda est morte de façon vraiment horrible. Puis, on connaît les détails. Vu que Richard était là.
Navy, écoute pas.
Ouais, écoute pas Navy. Dans la nuit du 15 au 16 janvier, Richard il avait couché chez Steele. Puis le lendemain matin, il voit arriver Linda. Steele est content de la voir. Linda a commencé à faire des appels aux différents centres d'hébergement pour femmes afin d'essayer de retrouver la femme de Steele. Puis à un moment donné, Steele il dit à Richard d'aller pelleter la neige dans l'entrée. Puis là, quand Richard revient à l'intérieur, il entend Steele traiter Linda de sorcière. Puis, il voit genre prendre la sacoche de Linda puis juste comme vider tout le contenu sur le plancher. Fait que ce qu'il comprend, c'est comme Steele, il aurait comme fait une avance à Linda. Ah. Puis elle l'aurait comme repoussé.
Ouais.
Puis c'est là que...
Ça en prenait pas plus.
Non, ça en prenait pas plus.
Ça n'a pas de sens.
Il était assez coucou puis assez violent que ça prenait pas grand-chose. Et c'est à ce moment-là que Steele, il attrape un couteau sur la table puis il commence à frapper Linda, mais... avec le plat de la lame, comme pas à la poignarder.
Juste la frapper.
Ouais. Puis ensuite, il l'empoigne par les cheveux, puis il la jette au sol, puis il commence à la rouer de coups de pied. Richard, il est comme figé là. Il regarde la scène. Ensuite, Steele, il traîne Linda jusqu'au sous-sol, puis il demande à Richard à l'aider à la mettre dans une malle. Puis là, Linda pleure, elle se débat, mais les deux hommes réussissent à la mettre à l'intérieur de la malle, puis à fermer le couvercle. Puis ensuite, ils placent la malle dans une chambre froide, puis ils mettent comme un gros air climatisé, là, super lourd, sur le dessus pour être sûr qu'elle puisse pas sortir. Puis ensuite, ils s'en vont. Ils prennent la voiture de Linda pour se rendre chez Richard chercher un magnétophone. Steele, il est convaincu que Linda, elle sait où est sa femme, puis qu'elle veut pas le dire. Fait que là, il veut qu'elle confesse puis enregistrer sa confession de où est sa femme.
OK.
Mais là, à mi-chemin, Steele, il s'imagine que Linda est en train de se sauver, fait qu'il retourne, sans être allé chercher le magnétophone. Donc là, en arrivant, ben, Linda, non, elle s'est pas sauvée. Elle n'était pas capable. Fait que là, ils sortent Linda de la malle, elle pleure, elle les supplie de la laisser partir. Steele, il lui met une chaîne autour du cou, puis l'autre bout de la chaîne, il l'accroche au plafond. Puis là, à un certain point, elle se ramasse comme accrochée par les chevilles. C'est pas clair quand. Et là, à un moment donné, le téléphone sonne. Puis Steele, il dit à Richard d'aller répondre. Puis Richard répond, c'est la femme de Steele qui veut lui parler. Puis là, Richard lui parle sans mentionner ce qui se passe dans le sous-sol. Et sans lui dire d'appeler les secours. T'sais, ça aurait tellement été...
Ah, il était sous son emprise, ça n'a aucun sens.
T'sais, à ce moment-là, elle aurait pu être sauvée comme s'il avait été capable. Fait que là, il va surveiller Linda pendant que Steele va parler à sa femme. Là, Linda a supplié Richard, là, comme, comment libère-moi, comme, c'est le temps, là. Mais Richard, il est juste... Il bouge pas, il est comme complètement figé.
Aïe.
Pendant ce temps, au téléphone, la femme de Steele, elle lui annonce qu'elle reviendra plus. Puis qu'elle laisse pour de bon.
Oh non, la rage.
Ouais, c'est ça. Fait que, elle savait pas que Linda allait payer pour ce qu'elle venait de dire, là. Fait que Steele, il retourne au sol, puis là, il est
encore
plus furieux, là. Il questionne Linda, où est ma femme? Non, Linda, elle sait pas. Puis là, à un moment donné, il prend un couteau puis il la poignarde à 7 reprises. Puis à un moment donné, la chaîne à l'âge puis Linda, elle s'écroule au sol. Puis là, il y avait les chiens qui rôdaient autour.
Non.
Steele leur ordonne d'aller mordre Linda. Puis à l'autopsie, on va apprendre qu'elle s'est faite mordre 54 fois.
Elle était encore en vie à ce moment-là. Ouais.
Alors, Linda Quinn finit par mourir par terre après 5 heures de torture et d'angoisse.
5 heures?
Elle n'avait que 23 ans. Elle est enceinte de 2 mois. C'est vraiment horrible. Les deux hommes ont ensuite mis le corps de Linda dans la malle puis ils l'ont mis dans le jardin. Puis... Écoute, quand Suzanne elle a demandé à Richard pourquoi t'as rien fait, puis elle a dit j'avais tellement peur. La seule chose que j'ai pensé, c'était de prendre un fusil, mais il n'y en avait pas. Fait que je suis juste restée figée là. C'est comme si le seul plan qu'elle était capable de penser, c'était genre fusil. Il n'y en a pas. Ok, je peux rien faire.
Mais à quel point il était dominé?
Complètement, là.
Je serais curieuse d'entendre un professionnel, genre un,
ouais.
À un quel... psy. Mmh.
Puis c'était rapide, là. Ça faisait pas longtemps qu'il connaissait. Là. C'est fou.
Alors, comment tu peux avoir une emprise aussi forte?
Mmh.
Tu sais, mettons, je pense à Moïse qui avait une emprise sur ses disciples, mais lui, ça faisait des années qu'il suivait. Là, quand il a commencé à être fou puis à couper des bras. Là.
Mmh.
Un bras, mais...
Ouais.
Tu sais, même il y en avait à ce point-là qui réagissait, puis il était comme, hey, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu fais? Puis il était, je vais te le faire à toi aussi, puis là, il se taisait, mais genre, figé de même, rapidement de même.
Mm.
Puis tu sais, tu as des opportunités, là, il était au téléphone.
Il était au téléphone.
Il aurait pu juste quitter, sortir. Il y a tellement de choses qu'il aurait pu faire.
Le lendemain, il était à l'hôpital. Ouais.
Tellement de choses qu'il aurait pu faire.
C'est fou.
Tu sais, il fait pitié, là. Le...
Ah, vraiment. Mais c'est ça, tu sais, là, Richard Bertrand, il a été évalué, puis tu sais, il y avait des blessures, on s'en rappelle qu'il a été brûlé, eh bien, il est bouillanté. Fait que finalement, tu sais, il n'y a aucune accusation qui sont portées contre lui. Parce qu'il le considère comme une victime.
Ah ouais?
Ouais.
Même pas une petite complicité?
Non. Puis tu sais, évidemment, son témoignage est quand même essentiel au procès aussi, là.
Mais quand on avait... Il y avait le couteau, l'arme du crime, puis le corps.
Mais c'est sûr que le témoignage aide, là.
Oui, mais ça, même sans son témoignage,
il pourrait quand même l'accuser.
Meurtre premier, anyways.
Ouais. Mais...
J'ai comme la misère, moi, j'aurais quand même donné... Il était là, il l'a aidé.
Mais je pense que ça devait être l'évaluation des psychologues qui était comme, ce gars-là, il est juste...
Je comprends, il était pas là, mais t'as quand même, t'as quand même aidé à un meurtre, là?
Ouais.
Je sais pas, c'est controversé, là, mais...
Ouais, effectivement, c'est mon opinion. C'est, oui. Mais tu sais, il y a un de ses amis qui témoigne dans un tueur si proche, puis il est comme, tu sais, moi, je sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Puis j'espère que je me retrouverai jamais dans une situation pour savoir ce que je ferais. Effectivement.
Effectivement.
Mais oui, je comprends. Ça, moi aussi, ça m'a étonné qu'il y ait zéro accusation. Là.
Je comprends qu'il n'était pas là, il était sous l'emprise et tout. Je comprends que c'est une victime aussi. Ouais. Mais il faut quand même, à un moment donné, que tu payes. Il y a quand même agi.
C'est ça, c'est ça. Pendant... Une, pas une accusation de meurtre, mais une accusation de...
Ben, genre, complicité.
Complicité ou... t'sais, avoir bougé un cadavre, là, t'sais.
Oh, ouais. Ça peut être plein de choses. Hein. Genre, t'sais, il était là, pendant plusieurs heures, pendant même 24 heures. Le lendemain, il aurait pu dire... Tu sais... Je sais pas. C'est mon opinion, là. Ouais. Don't come at me.
Le procès. Le 5 novembre 1985, le procès de Raymond Steele débute au palais de justice de Valleyfield et, moi, te le dire tout de suite, c'est un shit show. En fait, ce qui arrive, c'est que à quelques jours du procès, les avocats de Steele, Maître Edmund Asselin et Richard Sylvain, signalent au juge Ducrot que les psychiatres qui doivent examiner Steele n'ont pas terminé leur travail et qu'en fait, eux-mêmes, les avocats, sont pas tout à fait prêts. Fait qu'ils demandent au juge de reporter la cause de quelques jours. Mais le juge, il refuse. Bon, ben, il leur donne une avant-midi de plus. Et là, la première journée du procès, les avocats de Steele informent le juge que Steele, il veut plus que ce soit eux qui le représentent.
On sait-tu pourquoi?
Parce qu'il est fou. Mais le juge, il trouve que ça a assez niaisé. Fait qu'il oblige les avocats à demeurer en cours jusqu'à la fin du procès afin de conseiller Steele. Pas nécessairement de le représenter mais activement, mais comme de le conseiller. Puis Steele, en bon psychopathe, veut se représenter lui-même.
Classique.
Alors, le lendemain, Raymond Steele se pointe comme déguisé en avocat, là, genre avec veston, cravate, sa petite valise de avec des livres de droit, genre. Puis là...
Il s'est déguisé en pasteur toute sa vie.
Ouais, là, il est rendu...
Il sait comment faire.
C'est ça.
Comme moi, je le sais comment être avocat, t'as juste à mettre un sou.
C'est ça.
Ça a marché pour le pasteur. Why not?
Mais ça va un peu moins bien marcher cette fois. Puis là, vu que c'est lui l'avocat, ben, il peut contre-interroger les témoins, dont ses victimes, genre Richard Bertrand et Suzanne Quinn. Fait que tu imagines, genre, Suzanne, elle doit répondre aux questions ridicules du gars qui a tué sa sœur. Ben, puis qui a exercé un gros contrôle mental sur elle aussi, là.
Ben oui.
C'est fucked up. Puis, oui, apparemment qu'elle était tellement écœurée, à un moment donné, elle s'est levée du box des témoins, puis elle s'est poussée. Là. Plus capable.
Mais le juge est...
Je sais pas, j'ai pas les détails de ce qui s'est passé après, mais j'ai juste lu ça dans les journaux. C'est bon.
D'accord avec le shit show.
Puis, il a même contre-interrogé la mère de Linda puis Suzanne.
Ben voyons donc. Comment ça peut être possible?
Ça devrait être interdit.
J'espère que ça a changé depuis.
Ben, je sais pas, parce que... Bon, nos amis, nos auditeurs, avocats, vous nous direz, mais... Parce que tu as le droit de te représenter toi-même, mais c'est ça, il devrait comme avoir une règle
pour dire... Contre-interroger les familles de la victime?
C'est ça, tu peux pas contre-interroger les victimes, tes propres victimes.
Ben non, ça n'a pas de sens. Si la victime avait survécu, faut que tu interroges ta victime?
C'est débile.
Fait que tu sais, quand je t'ai poignardé, là, comment tu te sentais dans le fond? Ça n'a aucun sens.
Ça n'a pas de sens. À un moment donné, comme témoin, il fait venir Gilles Savard, le commandant de la SQ du poste de Huntington, parce qu'il voulait que Gilles Savard dise que lui, Raymond Steele, l'avait appelé une douzaine de fois pour réclamer une enquête pour la disparition de sa femme et de son bébé. Puis que Gilles Savard, il aurait rien fait pour déclencher l'enquête, puis qu'en plus, il l'aurait menacé.
OK.
Gilles Savard, il est juste comme...
Non.
Non. Je ne vous ai jamais parlé au téléphone et je ne vous ai jamais menacé. Et ça,
merci.
Cette confrontation absurde va durer 3 heures.
Hein? Trois? Hein?
Voilà. Shit show.
Shit show.
Vers la fin du procès, les avocats de Steele sont gênés d'être là, on les comprend. Puis, ils demandent au juge d'ordonner à Steele... Ils demandent au juge...
Prends une respiration. T'es comme trop énervé.
Oui, je suis trop énervé. C'est trop fâchant. Il demande au juge que Steele soit examiné sur le champ par 2 psychiatres qui ont assisté au procès puis qui ont observé son comportement. Parce que eux, les avocats, ils pensent que Steele, il n'est pas apte à se défendre lui-même. Puis qu'avant d'aller plus loin, le juge devrait se pencher sur l'aptitude mentale de Steele.
No shit.
No shit. Mais le juge Ducrot refuse en disant qu'il n'y a aucun doute sur la capacité de Steele à subir son procès. Fait qu'après quoi, après quoi, les avocats demandent à nouveau de se retirer, puis cette fois, le juge accepte. Puis Steele, il termine tout seul son procès.
Ça n'a pas de bon sens!
Mais là, Steele, il trouve ça... C'est un peu plus dur de jouer l'avocat, s'improviser avocat que s'improviser pasteur, ça a l'air. Tiens donc.
Tiens donc.
Il met abruptement fin à sa défense. Genre, tout d'un coup, il décide qu'il ne veut plus faire témoigner personne, puis même s'il y a des témoins prêts qui étaient là, genre, qui attendaient derrière. Fait qu'il arrête tout ça, puis il passe directement à sa plaidoirie de clôture.
OK.
Je t'en résume les grandes
lignes. Oh mon Dieu. Vas-y.
Les larmes aux yeux. La lèvre tremblante. Il dit au jury qu'il aimait Linda et qu'il n'avait aucune raison de la tuer. Il n'était même pas chez lui le jour du crime.
Ah!
Mais il n'y avait aucun alibi pour prouver l'inverse.
Il n'était juste pas là.
Non. Mm-hmm. Il leur dit aussi que les témoins qu'il voulait faire entendre au tribunal auraient été menacés par les enquêteurs. Il y avait apparemment un complot contre lui.
Ah, ben oui.
Oui, pour le complot de la police contre lui. Ouais,
classique.
Il dit que la police aurait pu démasquer le vrai coupable si elle avait mené son enquête de façon plus professionnelle. Parce que la police aurait négligé d'autres pistes, par exprès.
Okay, c'est une victime sur toute la ligne.
Ah oui, oh oui, 100%. Puis il rappelle que son ami Richard Bertrand avait été seul en compagnie de Linda à plusieurs moments.
Je savais que ça s'en venait. Je savais. C'est sûr qu'elle allait mettre ça sur son dos.
Mais oui. Et que les chiens, ses chiens manifestaient souvent plus d'affection à Richard qu'à lui-même.
Donc, c'est Richard qui a commandé aux chiens de manger.
Exactement.
Oui.
Il déclare aussi qu'il ne connaît pas l'auteur du meurtre. T'sais, il n'accuse pas directement Richard, mais c'est comme...
Mais il était
wink,
pas là.
Wink, ça pourrait être lui.
Il était pas là.
Et là, il finit par dire...
Normalement, c'est moi.
Il dit, mais je ne connais pas l'auteur du meurtre, mais j'ai assez jeté d'éléments devant vous pour avoir créé un doute raisonnable.
Ah, il est pas con, hein?
Ensuite, il essuie une dernière larme. En disant, rappelez-vous qu'il vaut mieux acquitter trois coupables que de condamner un innocent. Bouhouhou!
Ah, il est bon.
Il est bon.
Il est bon.
Mais en même temps, c'est ridicule.
Mais en même temps, c'est pas con de faire le doute raisonnable.
Oui.
C'est ça qu'il a essayé de faire.
Il a essayé, oui.
Mais... Dis-moi que ça n'a pas marché, s'il te plaît.
Non, ça n'a pas marché.
Ok, thank God.
Le 15 novembre, après seulement 4 heures de délibération, Raymond Steele est reconnu coupable du meurtre prémédité de Linda Quinn.
Merci.
Prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Quand le verdict est tombé, les gens ont applaudi dans la salle.
J'ai failli applaudir moi-même.
Et Steele, frustré, aurait donné un coup de pied sur la chaise devant lui.
Ah ben.
Mais c'est pas fini. C'est ce que, vu que c'était un shit show, il y a quand même des raisons de faire appel de la décision.
Ah non.
Mm-hmm.
Oh non.
Et l'appel est entendu en février 91. Donc, la cour d'appel conclut que le juge Jacques Ducrot a commis plusieurs erreurs graves, forçant entre autres les avocats de Steele à continuer de le défendre même s'il n'était pas prêt et que Steele ne voulait plus d'eux.
Mm.
Et aussi en refusant de discuter de l'aptitude de Steele à subir son procès, même si l'accusé avait des antécédents psychiatriques et que des psychiatres doutaient de sa santé mentale. Donc, la cour ordonne un nouveau procès. En octobre 91, alors que Steele est à la cour pour connaître la date de son deuxième procès, il surprend tout le monde en plaidant coupable au meurtre deuxième degré de Linda Quinn. Et alors, ça marche. Fait qu'il passe de premier degré à deuxième degré et il est condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans.
Mais tu sais, c'était pas prémédité, ça, c'est clair?
Non. Non.
C'est sûr que non.
C'était pas prémédité. Mais je pense que, peut-être vu qu'il l'a, retenu, tu sais, quand tu tiens que...
Il l'a kidnappé. Ben, ouais, retenu contre son gré.
Retenu contre son gré, t'as comme deux crimes en même temps, fait que tu peux passer une accusation de premier degré.
OK.
Je pense. Vous nous confirmerez ça, les avocats?
On se rappelle qu'on est toujours pas avocates.
Que nous sommes pas avocates.
Malgré qu'on pourrait mettre un sou.
On pourrait mettre
ça
un sou.
Ça serait réglé.
Ouais.
C'est juste ça que ça prend.
En 2008, alors qu'il avait 55 ans, il a obtenu une libération conditionnelle.
Non.
Oui. Et là, toute la ville de Huntington se mobilise.
J'espère.
Parce que les habitants sont comme, nous, on veut pas qu'ils reviennent habiter ici.
Ben non.
Ils partent des pétitions, puis tout. Puis, je sais pas si ça a marché. J'ai eu comme pas de nouvelles. J'ai vu cet article-là, puis après ça, j'ai pas eu d'autres nouvelles. Fait que, j'imagine que ça a fonctionné, puis qu'il est allé ailleurs. Mais
où?
Ce qu'on sait, c'est qu'il s'est montré agressif avec le personnel de la maison de transition dans laquelle il séjournait. Alors, la commission des libérations conditionnelles a révoqué sa libération.
OK.
Ouais. Et la dernière nouvelle que j'ai vue, c'est en 2010, il a fait une autre demande qui avait été refusée.
Il est dangereux, ce gars-là. Ben c'est un manipulateur.
Il était pas vieux, là. 2001, il avait 55 ans. Il était encore assez en forme pour faire du mal.
Ah oui.
Laissez-le pas sortir. Là. Psychopathe foufoufou. Là. Gardez ça dedans.
Oh my God. Mm. Il a réussi à contrôler quelqu'un à ce point-là.
Mm.
Il est dangereux, là.
Vraiment.
My God.
Voilà.
Donc, on sait pas il est où. Ça finit de même.
C'est ça. On espère qu'il est en prison. Si on a des auditeurs qui savent, on nous dirait.
Il est où? Oui, non.
Mm.
Il est où?
Il est-tu dans une prison au Québec, quelque part? Ou pas?
En bas à gauche. Hey, c'était vraiment bon. J'étais au bout de ma chaise.
À vous, hein? Quand je suis tombée sur l'épisode d'un tueur suprême, j'étais genre, voyons, qu'est-ce qui se passe? Au début, t'es
ça
là.
Arrête jamais.
C'est quoi cette situation-là? Pourquoi tout le monde y obéit? What the fuck?
Ça n'a aucun sens.
Ouais.
Les sectes, c'est vraiment le fun à faire.
Oui, vraiment.
De voir le côté psychologique de la chose, comment est-ce qu'ils font pour contrôler tout le monde. Puis, je suis rendue une pro, ça fait deux sectes que je fais.
Ben oui. Moi, j'avais hésité entre l'appeler le pasteur ou mini-secte. C'est vraiment une mini-secte.
Mini-secte, j'aime ça aussi. Merci beaucoup, Hélène, pour cette histoire.
Ça
merci,
plaisir.
Névi, pour ta patience.
Oui, bravo, Névi, t'as bien fait ça.
T'as bien fait ça, bébé.
Il fait un gros sourire. Bon, ben sur ça, on va vous laisser, puis on va gérer un bébé.
Bonne journée.
OK.
OK, bonne journée.
À la semaine prochaine.
Bye.
Bye. Crime de Bin est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Hervé. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binkou!
Bye!
Now at Verizon, we're locking in low prices for 3 years, guaranteed, on my plan. And you can get a single line for just $45 a month when you switch and bring your phone. That's our best price ever on unlimited welcome, with autopay plus taxes and fees, guaranteed for 3 years. Because at Verizon, we got you. Visit your local Chicago Verizon store today. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Price guarantee applies to then current base monthly rate. Additional terms and conditions apply.
Chicago, it's no mystery that Chevy is your best bet for the unpredictable spring ahead. The snow and ice may be gone, but the spring plot thickens at your local Chevy dealer, where you'll find the true MO of SUVs. If you're thinking about taking all the twists and turns in a new Chevy, you're not alone. The right vehicle makes all the difference when it comes to safety, confidence, and comfort on the road. You saw the Chevy lineup at the auto show. Now it's time to see which one you can identify. And don't worry, they can't see you behind the glass. Need the power and durability of a Silverado? The all-weather confidence of an Equinox or Blazer? The spacious comfort of a Traverse, Tahoe, or Suburban? Or the sporty city-friendly Trax? Your local Chevy dealer has exactly what you need to solve the case like a pro. So don't wait. Head to ChevyDriveChicago.com today. Browse the newest models, special offers, locate your nearest Chevy dealer, and start shopping online. Things are warming up out there, and you need a vehicle you can trust. Find yours now at ChevyDriveChicago.com. Chevy. Together, let's drive.